en effet à l'apparition de distance des patriarches eux-mêmes. Cette civilisation de Babel a éclaté en autant de nations qui sont les nations de base, qui sont le fondement des identités humaines, de chaque identité sociale, sociologique, des sociétés contemporaines. Il y a eu donc dans l'Antiquité l'universel humain, cet universel a éclaté et en a résulté la dissipation des nations. Si j'osais, je dirais, je l'ai déjà dit quelques fois, qu'au fond, la dispersion, avant d'être la dispersion des Juifs, a été la dispersion des nations. Les nations sont dispersées entre elles. Et les nations contemporaines, déjà depuis le temps de l'Antiquité biblique, depuis ce temps-là, les nations sont le résultat d'un éclatement de l'unité humaine. Et l'identité d'Israël, à partir d'Abraham, apparaît comme une autre manière d'être homme qui se présente dès la prophétie du patriarche comme ayant pour vocation de réunifier cet éclatement de la dispersion humaine. Il y a l'identité spécifique dès l'origine, c'est l'identité hébraïque, celle qui apparaît avec Abraham, mais dans sa spécificité même, elle est vouée à la dispersion dans la dispersion chez les nations. Et le caractère anormal de l'existence pendant les différentes générations de l'exil vient que chacune des communautés issues de la population d'Israël n'est occupée qu'à la relation avec une nation considérée. Israël, dans son identité centrale, et donc tout est du point de vue de la dispersion, a été le centre d'une périphérie qui serait toutes les nations. Mais dans la situation concrète, dans la situation historique réelle, chacune des communautés juives de la diaspora n'a jamais été reliée qu'avec une culture en particulier, qu'avec une culture considérée. Et c'est la raison pour laquelle il y a une diminution d'envergure dans l'identité d'Israël de l'exil par rapport à l'Israël des commencements ou à l'Israël de la fin. L'Israël des commencements est d'emblée l'exposant d'une humanité tout entière au niveau des patriarches, de même que Israël l'a fait. Mais à chacune des générations, il y a inévitablement inadéquation de l'identité d'Israël avec elle-même, parce que chacune des communautés ne peut être branchée que sur une partie de l'universel humain, et jamais sur l'universel humain en général, dans sa totalité. Cette dialectique de l'exil et du salut se relie à ce point précis. Ce n'est que dans la mesure où l'identité juive est capable de reconstituer cette identité spécifique d'Israël à l'exposant de l'ensemble de l'humanité que le salut se trouve être proche. Ce n'est que dans la mesure donc où Israël de l'exil prend acte par un jugement et par un bilan privé sur lui-même que ces trois dimensions de faute qui avaient été désignées par le texte que je vous ai cité dans le débat de tout à l'heure sont déjà et qui peut être occupé à constituer une identité humaine qui peut faire la preuve de son authenticité par rapport à ces trois coordonnées, le rapport avec Dieu, le rapport avec l'autre et le rapport avec lui-même. Il y a deux polarités d'authenticité, celle du commencement et celle de la fin. C'est cette même histoire qui se développe à travers toutes les générations, mais ce n'est que dans la mesure il y a une fidélité à la spécificité du commencement à celle de la fin que l'histoire de l'exil peut justifier. Ce témoignage que porte Ida ne peut concerner que l'identité juive qui se connaît comme spécifique de par son passé et de par son avenir, quelle que soit la relation avec l'universel qu'elle compte dans les générations de la discussion. Voici l'analyse que je voulais en partie vous rappeler et en partie. Et je pense que nous pouvons tout de suite aborder la deuxième partie en posant la question qu'en est-il aujourd'hui. La question du Maharaj était pourquoi est-il venu. Et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est qu'en est-il. Est-ce que cette durée de l'exil a pris fin? Est-ce que la société de frères qui est en train de se constituer aujourd'hui est bien la recherche d'une spécificité retrouvée à l'exposant de l'universel humain tout le monde. Eh bien, avant d'aborder cette deuxième partie, je voudrais vous donner la parole, peut-être sur de la
d'être un fervent, d'être un Avoir à laisser
Israël que l'Égypte leur a donné, leur a légué. C'est avec ça que nous avons reçu le temps. J'ai intentionnellement envoyé la femme, vous avez la conflit, vous avez la conflit, vous avez la conflit, pour vous faire comprendre le geste de l'enseignement. D'une plus de notre histoire, nous avons laissé en dehors des étincelles qui viennent de sainteté, comme dit Yosua, qui appartiennent à l'âme d'Israël et qui sont en dehors. Alors nous sommes destinés à aller à l'intérieur, là où elles se trouvent, de telle sorte qu'on peut les délivrer et de les emporter avec nous pour faire une vraie action de l'humanité aujourd'hui. Voilà, je crois au fond que c'est ça que je veux dire. Là où je suis maintenant, sur un plan concret, sur un plan politique, semble-t-il, nous sommes occupés en constituant un national, en constituant un souverainité de tout, nous sommes occupés à prendre, à occuper, si je veux dire, la même terre, c'est une de notre sens, la position d'autrui, et nous venons pour le faire. Je veux dire une chose, que les habitants de l'État d'Israël, que les habitants du pays d'Israël ne soient pas des juifs. Ça, c'est une péripétie de leur histoire. Ce n'est pas une péripétie de notre histoire. La péripétie de notre histoire, c'est que nous avons habité ailleurs que chez nous. Que chez nous se trouvent des gens qui ne sont pas nous, c'est une péripétie de leur histoire. Est-ce que c'est bien clair? Je le vois de toute façon, je vous dis. Pour vous dire ça, dans votre terre, votre salle de façon directe, je l'ai également expliqué. Je crois que si nous prenons cette définition stricte, que les juifs ne sont chez eux que chez eux, alors la réalité aussi est corollairement que les arabes sont chez eux que chez eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en dehors des frontières de l'Arabie, partout ailleurs, les arabes sont pas chez eux, à ce niveau de place. Il y a Mishnah qui dit que la Torah a parlé d'un sort d'une enfant. C'est ce qu'est la parole qui dit dans la Torah. La Torah a parlé d'un sort d'une enfant. Et dans l'identité d'Israël, il y a finalement quatre éventualités possibles dans le dialogue des générations du Torah et surtout dans ce dialogue de l'identité d'Israël avec elle-même. Lorsque les Juifs pensent à la sortie d'Égypte, à leur commémoration de la sortie d'Égypte, et que cette histoire de l'exil doit culminer et se réaliser dans le moment du salut, dans le moment de la fin de l'exil, alors il y a quatre manières de s'adresser à cette question. Le Mkha, le sage, le Rachar, celui qui n'en veut pas, le sage, celui qui comprend et qui demande comment il faut y faire, le Rachar, celui qui n'en veut pas, qui dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous savez tout cela. Le simple, le table, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Et puis le quatrième, j'ai l'air de dire les choses, celui qui ne sait même pas poser de questions, celui qui ne parle même pas. Lors d'un des commentateurs de la Gada posait la question suivante. Mais dans quelle famille d'Israël il y a ces quatre sortes d'enfants? Un racham, un rachat, un table, un celui qui veut dire les choses. Si la Torah a parlé pour ces quatre sortes d'enfants, la Gada, elle, de quelle sorte de famille juive parle-t-elle? En réponse, c'est la famille d'Abraham. Effectivement, dans la question de l'Abraham, il y a eu un racham, un sage, et Isaac. La question qu'il pose, c'est, il faut faire le sacrifice de Pâques, je suis prêt, comment faut-il faire le sacrifice? Vous voyez, une nouvelle. Et le sacrifice de Pâques, c'est la sortie des gens. C'est la sortie de l'Église. Bon, il faut le faire, mais dites-moi comment il faut le faire. Le rachat, c'était Esaü, celui qui s'est rebellé contre l'identité d'Israël. Qui en a pas voulu. Il dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Moi, je reste ici. Le Tam, c'est Jacob. Le verset, le Chitab, le Chevoal. Jacob, c'est-à-dire les enfants d'Israël, la raison de Jacob. Elle explique toute notre histoire. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et puis on décide vraiment, enfin, que se passe-t-il? Et puis le quatrième, celui qui ne parle pas, c'est Ishmael. Parce qu'effectivement, on a remarqué que tous les personnages de la Torah parlent sans Israël, sans Ishmael. Ishmael ne parle pas. Relisez toute la Bible, relisez tout le Pentateuque, relisez toute la Torah, vous verrez qu'Ishmael ne parle jamais. Et alors je reprends la Mishnah de la Gada. Il y avait aussi très contemporain, il ne peut pas parler. Et tout le monde sait, vous savez, depuis combien de temps
il faut que les gens
supplient les Arabes de parler avec eux. Alors, admirable. Et en revanche, le texte que je portais, Atta, masculin, il y a Ami au féminin. Il faut lui parler à manière féminine. Comme il a dit, par exemple, il faudra faire un anglais pédagogie maternelle pour s'adresser à lui. Et là, la Mishnah va faire quoi? Elle dit, il y a Chol de Rosh Chodesh. Peut-être on pourrait penser que c'est que le premier du mois qu'il faut commencer à s'adresser à lui. Peut-être même que le Rosh Chodesh, c'est-à-dire dès le commencement du renouvellement des autres, dès leur touche, dès que les choses commencent à changer dans l'histoire de la famille d'Abraham, dès que les premiers signes apparaissent, on pourrait s'adresser à lui, à lui dire, bon, essayons de comprendre. La Mishnah a prévu tout ça. Vous croyez peut-être que les choses vont commencer, on pourra parler avec eux, on pourra. Il faudra le jour même. Le jour même, Bayouma, Yahan et Karobion, le jour même, peut-être juste la veille, pendant le jour, peut-être le soir de l'événement, non, Talouzoma va abuser Yohan Tira, Béchara, Chimansa, Mounachi, Béchara. Uniquement quand les événements sont là, quand vraiment les événements de la fin de la sortie, de la détention qui seront là, à ce moment-là.